Salut Daniel, c'est Alain de l'association de défense et de développement de l'hôpital de Saint-Agrève en Ardèche. Voilà Daniel, nous luttons depuis des mois pour sauver l'hôpital de ce petit coin de France, perdu à 1100 mètres d'altitude entre l'Auvergne et Rhône-Alpes. Dans cet hôpital, on y trouve une maternité, un service chirurgie, des lits de médecine et une maison des aînés. Oui mais voilà, l'ARH, l'agence régionale d'hospitalisation que nous avons rebaptisée l'agence de la régression humaine, ne veut plus financer cet hôpital. Or, dans la région, l'hiver peut être redoutable et l'hôpital de Saint-Agrève est le seul lieu à 50 km à la ronde où une future maman peut accoucher en toute sécurité, où une urgence peut être traitée en attendant le transfert vers un grand centre hospitalier. L'État va ainsi plonger 30 000 habitants dans l'insécurité. C'est injuste, inconséquent et dangereux. Notre association adhère à la Coordination nationale des hôpitaux de proximité, nos amis de Saint-Afrique. Nous ne nous laisserons pas faire. Venez nous aider à défendre le droit à la santé inscrit dans la Constitution française. Une manifestation est organisée le samedi 20 novembre à 14h à Privas en préfecture d'Ardèche. Le départ est organisé de Saint-Agrève à midi. Le transport est gratuit, venez en famille et réservé au 04 75 30, 10, 41. Merci Daniel, merci à tous les auditeurs et puis courage à tous ceux qui luttent. Ciao.
Oui, bonsoir, l'équipe de la Bastille, j'y suis, Dominique de Calais. Ce soir, le collectif C'est Sûr avec les migrants occupe symboliquement un local paroissial de l'église Notre-Dame. Veille de la visite de monsieur de Villepin à Calais qui inspectera la zone hyper sécurisée du terminal portuaire. Nous voulons dénoncer la situation extrêmement préoccupante de 250 à 300 migrants toujours présents à Calais, 2 ans après la fermeture du camp de Sangade. Nous voulons rencontrer le ministre, exposer la situation dramatique que vivent ces réfugiés, dénoncer les violences policières et l'acharnement contre les bénévoles qui depuis 2 ans sont présents chaque jour pour leur apporter une aide matérielle et morale. Rappelons le deuxième procès, le 25 novembre à 13h, au tribunal de Boulogne-sur-Mer de Monsieur Lenoir et Framzel pour outrage à agent. Nos coordonnées sont les suivantes. Salam 06 70 55 14 55. La Belle Étoile 03 21 36 45 50. Merci de votre écoute, de votre solidarité et de votre soutien. Nous manquons de tout pour les réfugiés. À bientôt Dominique. Ce soir ici, en direct de la salle occupée. Vous entendez les Soudanais, les Afghans, etc.
Petit commentaire. Après nous avoir fait chialer pendant des jours sur les rapatriés de Côte d'Ivoire, France Inter nous parle brièvement ce matin des réfugiés de Sangatte et de l'indifférence des autorités envers eux. Ah bon ? Un réfugié, c'est donc pas toujours quelqu'un qui a quitté sa magnifique villa, sa voiture de fonction, son boy et sa boniche pour rentrer précipitamment en métropole, aux frais du contribuable français, évidemment. Et donc ces gens, ce ne seraient peut-être pas si malheureux qu'on veut nous le faire croire. Tiens, à ce propos, il y en a bien un parmi eux qui a dû rapporter dans ses bagages des statistiques sur les femmes africaines violées par les colons depuis la conquête, ou sur les boniches violées par leurs patrons postcoloniaux. Et puis, pour se consoler de leur exil, ils auront toujours pu se précipiter à l'ouverture de la collection Lagerfeld chez H&M à Paris. Une émeute, paraît-il, digne des funérailles d'Arafat. Ah, la France, un pays où on sait se mobiliser pour autre chose que des causes idéologiques et affectives, hein. Au revoir.
Salut Daniel, Malik, pareil. Écoute, je viens d'assister donc au procès de La Rumeur, dont tu avais fait une émission, très 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 bonne émission d'ailleurs. Donc ça se présente plutôt bien, je viens d'entendre la plaidoirie de l'avocat, la maître Tricot, qui m'a l'air vachement bien. Mis à part les bavardages de la procureure, même elle m'a pas l'air très très bien dans sa tête, enfin, dans ses chaussures en tous les cas, mais ça se présente plutôt bien, voilà. Donc j'ai passé une journée intéressante grâce à toi, merci. Et puis La Rumeur, c'est un groupe que je découvre, je trouve vachement bien. Salut.
C'est Marie-France du Mans. Je suis en train d'écouter les Palestiniens qui parlent de la clé de leur maison. Je travaille à Sarajevo 2 mois par an. Et là, j'ai fait connaissance avec des Juifs de la communauté juive de Sarajevo. Ils sont là depuis que Isabelle la catholique les a chassés d'Espagne. Et ils ont eux aussi la clé de leur maison d'Espagne. Et ils espèrent retrouver un jour leur bien. L'histoire, vraiment, bégaye.
Voilà les messages sur le répondeur de la Bastille J'y suis. Pour ce lundi, il y avait beaucoup, beaucoup sur au sujet des funérailles du président Arafat. Beaucoup sur la Côte d'Ivoire, mais voilà ce que nous avons choisi. Un message intéressant hein, sur le procès de La Rumeur, du groupe La Rumeur. Effectivement, avec Olivia Gesbert, on a fait une émission avec ce groupe. Et il y a plein d'auditeurs qui sont allés au palais de justice pour la première fois de leur vie assister à ce procès. Il y avait beaucoup de monde et visiblement c'est très intéressant parce que on a oublié hein, ce qu'a été la campagne présidentielle de 2002, cette hystérie sécuritaire. Et sauf que la justice prend son temps et que il y a comme un retour de quelque chose que certains sans doute préféreraient faire passer sous le tapis. Le jugement sera rendu le 17 décembre et on en reparlera d'ici là. Aujourd'hui, résultat des sondages. Vous savez qu'il y a des sondages régulièrement sur notre belle radio. Et ben voilà, merci aux 48 000 auditeurs qui ont rejoint là-bas si j'y suis depuis un an. Selon ces sondages, qu'il faut toujours prendre avec des pincettes, hein, c'est la formule toujours, dès qu'on entend le mot sondage, il faut vite dire pincette, vous seriez 432 000, 440 000 environ à vous porter chaque jour à l'écoute de cette émission modeste et géniale. Et pour célébrer ça, on va s'ordonner de l'énergie avec quelqu'un de tout à fait lumineux au sens des lumières et de l'esprit de résistance, un homme qui a dépassé ses 90 ans il y a quelque temps déjà, qui s'appelle Jean-Pierre Vernant et dont Pierre Vidal-Naquet disait qu'il était un maître de liberté dont l'enseignement est proprement universel. Donc on va passer cette heure avec lui et la conversation qu'il avait eue avec Guy Vanctil. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de là-bas, si j'y suis. 01 56 40 37 37.
Henri de Poissy, nous vous demandons de venir nombreux le 16 novembre au tribunal des prud'hommes de Pontoise afin de soutenir les anciens salariés de Micafrance qui se battent maintenant depuis 3 ans contre un conglomérat qui a décidé une délocalisation et qui a donc mis tout le monde à la rue. Si vous êtes contre ce type d'action, ben, venez soutenir l'ensemble de ce personnel. Nous n'avons pas pu vous prévenir plus tôt, simplement parce que ce fameux conglomérat faisait tout ce qu'il pouvait pour changer les dates, et ce qui fait qu'on n'a pu vous prévenir que maintenant. Voilà.
Roger, de la Haute-Vallée de l'Aude. Dans tout ce que j'entends depuis 2 ou 3 semaines à propos de Yasser Arafat, et jusqu'à aujourd'hui, 12 novembre 2004, je me demande où est le peuple palestinien, à travers les clichés journalistiques, les phrases non dites, les commentaires déjà dits, je ne l'entends pas, je ne peux pas l'entendre, j'y arrive pas, ni même le peuple israélien. Et donc, où est-il, ce peuple palestinien, depuis 1948? Ce sont quand même des gens, non? Des êtres humains. À travers le peuple palestinien, je me demande aussi quand même où sont les peuples du monde, hein, à savoir y compris nous-mêmes. Si nous oublions les peuples du monde, nous nous oublions nous-mêmes. Cela va paraître bizarre, mais je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec un article que je viens de lire là, hier ou avant-hier dans le Canard enchaîné. C'est à propos de l'ours tué dans les Pyrénées et qui cite un extrait de Ian McMillan à propos des condors. Alors, je le lis, hein. Tranquille, je le lis. Ce qui compte vraiment dans la sauvegarde des condors, ce n'est pas tant que nous avons besoin des condors, c'est que nous avons besoin de développer les qualités humaines pour les sauver. Car ce sont celles-là mêmes qu'il nous faut pour nous sauver nous-mêmes. Voilà, désolé de citer, je ne vois pas le dire moi-même, mais voilà. Allez, ciao.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Guy Vanctil, Jean-Pierre Vernant. Flight number 2, arriving from New York.
Merci à tous ceux qui sont motivés.
Vous allez y penser pendant une heure. Vous allez penser pendant une heure à cette chanson. Chanson née il y a 60 ans. Cette chanson de la résistance a résisté au temps et porte depuis 60 ans l'esprit de résistance. Un homme pourrait incarner cette traversée du temps. Cet homme est resté depuis cette époque et même avant. Un vrai passeur de résistance. C'est Jean-Pierre Vernant, historien, psychologue, philosophe, professeur au Collège de France, un homme absolument remarquable et qui reste à l'âge qu'il a, plus de 90 ans, à la fois alerte et alerté. Le poète américain Whitman disait « Je suis une multitude ». Eh bien, on pourrait dire ça de Jean-Pierre Vernant, qui est à la fois est une multitude de vies successives et de vies simultanées. On va passer cette heure avec lui, avec l'idée que si la base où j'y suis était une ville, eh bien, il y aurait une avenue Pierre Vidal-Naquet, il y aurait une place Pierre Bourdieu, il y aurait une rue George Orwell, il y aurait un parc Cornelius Castoriadis. Aujourd'hui, la promenade Jean-Pierre Vernant.
La radiodiffusion nationale vous parle.
Près de Chalon-sur-Saône, un attentat fait 18 morts, 32 blessés graves. À Grenoble, une explosion détruit des quartiers entiers, 1500 blessés. À Bourg-en-Bresse, les boutiques sont saccagées le jour des obsèques du général de Benet. Telles sont les œuvres de terroristes étrangers et presque tous juifs. Arméniens. Juifs polonais, Espagnols rouges, Juifs polonais, encore un Juif polonais. À Vichy, le président Laval et M. Darnan, secrétaire général au maintien de l'ordre, viennent s'incliner devant les corps de trois gardes du groupe mobile de réserve du Bourbonnais, tombés victimes de devoir en luttant contre les bandes communaux terroristes. À la violence, devait déclarer M. Darnan au nom du chef du gouvernement, nous répondrons par une répression juste mais implacable.
Bon, on y va.
Allons-y.
90 ans déjà sonné, ça fait pas mal. C'est beaucoup, je dirais même que c'est beaucoup trop.
Pourquoi?
Parce que je trouve que c'est beaucoup trop.
Vous en êtes à un moment où on a vécu plusieurs vies dans une vie. Et d'ailleurs, j'imagine que des journalistes qui s'adressent à vous parlent bien sûr au doc de professeur reconnu émérite de je ne sais combien d'universités, mais parlent aussi au chef de la résistance, mais parlent aussi aux militants, mais parlent aux communistes, mais parlent aussi à l'homme engagé.
Bien sûr, c'est vrai. Plusieurs vies successives ou coexistantes, plusieurs Vernants aussi. On s'aperçoit quand on réfléchit qu'on est toujours multiples. Divisé entre le travail de réflexion scientifique sur la Grèce ancienne, l'actualité qui continue à vous travailler, divisé aussi parce que, comme tout le monde, comme le monde aussi, on a en soi une partie qui est une partie de réflexion critique, d'efforts pour essayer d'être lucide dans ses analyses concernant ce qu'on a vécu, ce qu'on a été, ce qu'on a fait, et aussi la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et en même temps, non pas s'opposant, mais différent, un aspect de fidélité à une forme de culture politique. Moi j'ai eu, j'étais dans une famille, mon grand-père avait fondé un journal dans les années 1880, à Provins, où je suis né, qui s'appelait Le Briard, et en dessous, il y avait écrit journal républicain. Et républicain s'opposait à quoi? Clérical. Il y avait un autre journal qui s'appelait L'Abri, et qui alors était le journal de la droite, et la grande bataille était la bataille cléricale.
Et donc, je dis toujours qu'un type comme moi, qui par conséquent, quand il a 18 ans, se rattache à une tradition anticléricale, en même temps que socialisante ou, quand je suis arrivé au quartier, marxiste, tout cela a bougé. Et moi aussi, j'ai bougé.
Un homme de mouvement, un homme dans le mouvement, Jean-Pierre Vernant, donc né en 1914, donc il avait 20 ans en 1934, et 1934 a été un grand virage, un grand moment particulièrement crucial pour notre histoire, 1934. Ce qui marque sans doute notre époque aujourd'hui, notre aujourd'hui, c'est le sentiment d'impuissance. C'est que on s'est persuadé, on ne sait même pas qu'on est persuadé de notre totale impuissance sur notre devenir individuel et collectif. Le devenir individuel, peut-être, oui, qu'est-ce que vous faites pour les vacances? Mais au-delà, on ne sait pas. Cette précarité générale dans laquelle nous nous trouvons, cet évanouissement du futur qui caractérise l'époque, fait que nous pensons que nous ne pouvons rien pour les choses, sur les choses, sur le temps, sur l'histoire, sur le devenir. Ça date pas d'hier. Ça date pas d'hier. Une minorité, quelques hommes, quelques femmes, ici et là, pensent différemment, pensent qu'on peut quand même, et malgré tout. Jean-Pierre Vernant, à travers toute sa vie, son travail, son œuvre, son engagement, sa jubilation, montre que on peut résister et qu'on doit résister. Éloge de l'esprit de résistance.
Vous avez dit, il y avait plusieurs Vernants et la résistance m'a changé par rapport à ce que j'étais auparavant. Vous avez dit famille républicaine, laïque, et vous, votre engagement au PC et les études universitaires et l'agrégation de philosophie. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu qui vous étiez au moment de la résistance et d'entrer en résistance?
Écoutez, là, comment je suis arrivé? Je suis né en 14. Mon père était mort donc à la guerre, en 15. Ma mère était morte tout de suite après la guerre. Donc on était, comme on dit, deux orphelins, élevés avec mes cousins, mon cousin et ma cousine. Pas malheureux, une enfance heureuse. J'ai fait toutes mes études au lycée Carnot. J'y suis entré en enfantine, la 11e. J'en suis sorti avec mes deux bacs. Et là, je suis parti à Louis-le-Grand, en Hippocagne. J'ai tout de suite vu que c'était pas là. Fait pour moi, c'était pas mon affaire, et en même temps je me suis inscrit à la faculté pour préparer la licence de philo, comme mon frère avait fait 2 ans auparavant. Quand je débarque au quartier latin, dans cette période de 31 jusqu'à 34, le quartier latin, il est dominé par ce qu'on appelle les ligues. Il y a des manifestations tous les jours au quartier latin.
Violentes aussi.
Assez violentes. Ils sont là et ils tiennent le quartier latin complètement. L'Action française, les jeunesses patriotes, les jeunes croix de feu qui sont pas terribles, les francistes qui sont des vrais fascistes, qui font le salut hitlérien. Ils tiennent le quartier latin et les gens comme mon frère, moi et les copains que j'ai, c'est pas facile.
Ouais.
C'est...
c'est ou profil bas ou faut s'organiser, quoi.
On s'organise.
Voilà.
On s'organise, on prend beaucoup de coups sur la tête. C'était, pas la terreur, mais c'était quand même une emprise très puissante. Et en plus, il y avait Mussolini, Franco, qui est sorti, et les nazis, avant encore, qui prennent le pouvoir. On est donc entouré d'États fascistes, et par conséquent, les fascistes considèrent que ça va tout seul, que la France aussi va y aller. Donc, comme il y a ça, viennent d'Europe centrale, de Roumanie, de Pologne et d'Allemagne. Beaucoup d'émigrés, ils sont juifs ou ils sont connus comme des gens de gauche ou d'extrême gauche. Ils viennent en France pour se réfugier. Et alors, ceux qui veulent entrer à la faculté de médecine sont chassés par les ligues. On crie « Abat la métèque, la France aux Français, abat les Juifs, ils viennent nous manger notre pain ». Mais c'était vraiment le quotidien de cela. Et ça m'a renforcé dans mon hostilité à l'égard de ce qui me paraissait évident, c'est-à-dire la haine de l'étranger, le chauvinisme le plus étroit, et la glorification de la violence, la négation de l'humanité chez ceux qui ne sont pas exactement copie conforme de ce que vous estimez être le bon français moyen, tout ça, c'est contre ça. Et si quand j'arrive au quartier latin, je suis plutôt comme ça, brigandiste, pacifiste, société des nations, socialisant, la vue de cela me radicalise, et en même temps que je commence à lire Marx, je pense que les communistes et l'Union soviétique vont représenter un rempart contre ce danger. Alors pourquoi je deviens un militant communiste? Bien entendu, je me fourre le doigt dans l'œil dans des grandes largeurs sur ma conception du monde, conception d'un marxisme un peu simplifié. Mais à l'époque d'avant-guerre, tous les communistes que j'ai connus chez les étudiants, on était quand même un certain nombre, dont beaucoup que j'ai retrouvés dans la résistance, l'essentiel pour nous, c'était l'antifascisme. Et le PC, là, français, le Parti Socialiste aussi, les organisations syndicales, et la franc-maçonnerie, je pense, a dû se jouer un rôle à peu près analogue, qui ont permis à la classe ouvrière française, ce qu'il y avait de mieux dans la classe ouvrière française, de s'élever, de quitter la production, de quitter la chaîne, pour venir dans les universités ouvrières, avoir des responsabilités, se mettre à lire, ouais, des lectures. Elles étaient préfabriquées, les lectures. Mais ils lisaient. Et d'avoir une espèce de vision du monde qui était plus large. Alors, bien entendu, cette formation, elle était unilatérale, mais ça n'empêche pas que ça a eu ce rôle, qui était un rôle pour écrémer, à partir du tout venant, de tout ce qu'il y avait, des éléments qui étaient capables de jouer un rôle et de réfléchir. Et en même temps, c'est vrai que c'était une entreprise, surtout après-guerre, je dis le mot comme je le pense, c'était intellectuellement une entreprise d'abrutissement complet, à tous égards. Mais dans cette période-là, d'avant-guerre, le PCF n'était pas ça encore. Dans les années 30, on n'était pas ça. Et tout de même, les analyses de Marx nous permettaient en gros de comprendre ce qui se passait. Et le résultat de tout cela, de ce mélange d'erreurs, de changements non prévus, de partis pris, de points aveugles, là, je dis que c'est ça qui m'a permis, dès 40, de comprendre que Pétain allait jouer le rôle simplement d'un valet du nazisme allemand, qu'il était pris là, et que par conséquent, il fallait le rejeter dès le départ. Il n'était pas question de faire autre chose que de se battre contre la présence allemande et les nazis. Parce que même si Molotov serre la main de Ribbentrop ou si Staline envoie ses félicitations à Hitler et réciproquement, quand les nazis sont là, ce sont les nazis. Et par conséquent, on ne peut que se battre contre eux.
Notre pays traverse des jours qui compteront parmi les plus douloureux qu'il ait connus. Excité par des propagandes étrangères, un trop grand nombre de ses enfants.
Maréchal Pétain.
Qui font régner chez nous un climat avant-coureur des pires désordres. Ceux qui poussent la France dans cette voie invoquent leur prétention de la libérer. Cette prétendue libération est le plus trompeur des mirages auxquels vous pourriez être tenté de céder. Ceux qui de loin vous lancent des consignes de désordre ne participent pas au risque qu'ils vous font courir. Il voudrait entraîner la France dans une nouvelle aventure dont l'issue ne saurait être douteuse. Français, quiconque parmi vous, fonctionnaires, militaires ou simples citoyens, participe au groupe de résistance, compromet l'avenir du pays. Il est dans votre intérêt de garder une attitude correcte et loyale envers les troupes d'occupation. Ne commettez pas d'actes susceptibles d'attirer sur vous et sur la population de terribles représailles. Vous précipitez la patrie dans les pires malheurs.
Dès le départ, dès 40, dès que j'entends Pétain, je comprends que ce que j'appelle mon pays, ma France, ce que j'ai vécu, le Front populaire, ce grand mouvement populaire, quand elle était rassemblée, la France, les auberges de la jeunesse, les congés payés, quand elle a vécu ça, eh ben c'est ça son pays. Quand on a vécu tous ces types qui n'avaient jamais eu de vacances et qui, avec leurs gosses, vont se flanquer dans la Manche, dans l'océan ou en Méditerranée, avec l'idée qu'on construit un monde qui est un monde meilleur. C'était ça, mon pays. C'était ça, c'est le 18e, c'est les Lumières, c'est tout ce coup que je vois absolument flanqué par terre, brisé. Et je me dis que bon, ben c'est pas vivable. Il n'y a pas de choix à faire, le choix il est fait. On ne peut pas vivre comme ça, c'est impossible. J'étais à Narbonne avec mon frère, qui était démobilisé en même temps que moi, ma belle-sœur et ma femme, et tout de suite on a commencé à faire des papillons qu'on collait sur les murs de Narbonne.
Qu'est-ce qu'il y avait écrit dessus ?
Il y en avait un qu'on a fait assez vite, qui devait être quelque chose comme « Si la France est par terre, c'est la faute à Hitler. Son drapeau dans l'eau sale, c'est la faute à Laval. » Ouais. Alors, j'en avais un deuxième dont je suis fier aujourd'hui parce que on en a fait d'autres, mais celui-là je m'en souviens bien parce qu'on a inondé Narbonne de machin où il y avait écrit vive l'Angleterre pour que vive la France
en 40,
c'est juste en juillet. Voilà, c'est plus dire là j'étais gaulliste. Voilà. Ça voulait dire que je me disais, et il a raison. Et là, tu le mets professeur à Toulouse, de philo. Mon frère est nommé à Clermont-Ferrand en 40-41. Là, il est chargé d'une mission clandestine auprès des Aubrac. Il va chez les Aubrac avec un mot de passe. Et il s'aperçoit, ils se reconnaissent avec Lucie qui connaissait. Et Lucie lui demande tout de suite, et ton frère où il est? Et donc les Aubrac viennent me voir et me demandent d'accepter de prendre en main l'organisation paramilitaire du mouvement Libération Sud. J'accepte très joyeux. Alors, je dis souvent que une des choses essentielles de la résistance, ce qui me frappe, c'est que ces jeunes ou ces moins jeunes, ces femmes aussi, elles ont fait preuve de non seulement des vertus qu'on considère comme masculines, le courage, le dévouement, le sacrifice, mais d'un acharnement et surtout d'une modestie complète. Elles sont en avant, elles font un tas de choses et toujours elles ont tendance à se mettre en arrière, à considérer que c'est pas elles, que c'est pas fondamental.
À laisser la gloriole pour les hommes.
À laisser la gloriole pour les hommes pendant et après. Mais elles, ces gens-là venaient de partout. C'est-à-dire que les fractures dans la société française, les différentes Frances qui existaient, la France laïque, républicaine, socialiste, communiste, quand les communistes sont entrés à fond, après 41, à fond dans la résistance active. Alors, tout ça, ça venait de partout. Et donc, pour un type qui était comme moi, de formation d'origine socialiste, anticléricale, progressiste et communiste avant-guerre, j'ai découvert, il y avait des types avec qui j'étais ami, qui étaient d'origine complètement différente, qui venaient de la droite française, la plus pure et la plus dure, l'Action française.
Ah oui.
J'en avais. Il y avait surtout des militants catholiques, syndicaux, intellectuels. Et par conséquent, moi, j'ai changé à leur contact. Parce que je ne les voyais plus de la même façon. Je les voyais agir, je voyais la force qui était en eux. Je rattachais cette force à l'ensemble de leur personnalité. Et par conséquent, ça m'ouvrait une fenêtre sur un univers spirituel et aussi sur une formation religieuse, sur des milieux qui pour moi était en dehors, et dont je me sentais à bien des égards proche. Et au fond, j'ai dit quelquefois, la résistance, c'est devenu comme une espèce de famille pour ceux qui étaient vraiment engagés à fond. Comme une famille, en famille, on est plus ou moins fâché, quelquefois, on a des litiges, mais enfin, on s'embrasse. Il y a quelque chose qui est profond, qui vous relie, c'est le fait qu'il y a un socle commun. Et ça a été ça aussi. Et c'est fort. Quand je vois un type, dont je sais qu'il a été actif dans la résistance, j'ai l'impression que qu'on est lié, qu'on est entre nous, de quelque chose qui n'est pas qu'on peut pas couper.
Amis, entends-tu les cris sourds du pays où l'on chaîne? Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines?
Et qu'est-ce qui s'est passé dans la résistance? Quel est le phénomène, à mes yeux, le plus extraordinaire? C'est le fait que un tas de gens, d'hommes et de femmes, qui, s'il n'y avait pas eu cette épreuve terrible, auraient eu des vies moyennes, comme tout le monde, médiocres. Ils auraient été un bon cheminot, ou un bon commerçant ou industriel, ou un bon prolo travaillant dans une usine d'aviation. Bon épicier, bon père de famille, brave, gentil. Mais moyens, se sont révélés des personnalités incroyables. Par le courage et ensuite par la capacité de voir ce qu'il faut faire, d'avoir une vision générale. Un tas de gens comme ça sont sortis, qui sinon seraient restés tout à fait anonymes.
On est presque jaloux, hein. On l'a été dans les années 60, exactement de ce dont parle Jean-Pierre Vernant, de ce que la résistance avait constitué d'aventures, d'occasions extraordinaires de se dépasser soi-même. Je pense à la génération de 68 qui s'est largement inspiré, qui a presque voulu couper avec cet esprit de la résistance. Mais on sait comment quand l'histoire repasse les plats, quand elle repasse les plats, c'est sous forme de farce le plus souvent. Ceux qui ont cru franchir une montagne, on le disait l'autre jour, n'ont en fait fait qu'enjamber un pli. Je parle de 68. Mais l'esprit de résistance, il y a esprit de résistance constant dans l'œuvre et la pensée de Jean-Pierre Vernant. C'est bien à cause de cette jubilation qui est due au dépassement de soi-même. On passe donc cette heure, qui va être évidemment trop brève, avec cet homme dont Pierre Vidal-Naquet disait qu'il était un maître de liberté dont l'enseignement est proprement universel.
Nous assistons à une recrudescence de cette agitation des comités populaires. Dans telle grande usine, les communistes passent même à l'action terroriste sans souci de la vie des ouvriers. Et une bombe était récemment déposée dans un atelier. La masse est dressée contre ces pratiques relevant non d'une doctrine politique mais de l'aventurisme dont ont toujours fait preuve malgré leurs protestations les dirigeants du Parti communiste auxquels on accola faussement le nom de Français.
Et ne croyez-vous pas que la classe ouvrière sent instinctivement avec son bon sens et son expérience habituelle le guet-apens dans lequel on veut la faire tomber?
C'est exact, mais il faut que nous l'informions davantage encore. Déjà dans une série de réunions et de conférences, nous avons mis sous les yeux d'une foule attentive des documents irréfutables. Nous continuerons cette propagande jusqu'au moment où le prolétariat des usines fera justice lui-même de ceux qui veulent son malheur, sur lequel ils installeraient le régime du despotisme et de la tyrannie.
C'est vrai que beaucoup de gens ont été pour Vichy. C'est vrai que la majorité des gens n'étaient rien d'autre que qu'on nous foute la paix, je vais essayer de nourrir ma famille, pas d'histoire, et je me tiens tranquille.
Et si les autres ont des problèmes, surtout ne pas bouger.
Oui, oui, jusqu'à un certain temps.
Voilà.
Mais une partie aussi qui a dit non, ça marche pas. Ça marche pas. Il y avait donc un état d'esprit qui n'était pas des... On pouvait faire.
Voilà.
Il y avait des complicités.
Et pendant ce temps-là, vous étiez présenté, vous et les autres, comme des terroristes.
Oh ben bien sûr, j'étais présenté comme des terroristes. Alors voilà, comme des terroristes, et quand on dit ça, est-ce que c'est la même chose qu'aujourd'hui? En partie oui, en partie non. Ça va un problème. En partie oui, parce que il y a terrorisme quand un groupe de gens sont unis pour la défense ou de leur identité nationale ou de leur position sociale et politique en présence d'une force armée beaucoup plus grande. Il ne peut pas y avoir un affrontement en terrain plat. Donc, le terrorisme, c'est la façon dont un groupe représentatif d'une idéologie, d'une conviction ou d'un État qui était maintenu sous l'occupation se défend avec une disproportion de force écrasante. Mais, d'abord, on attaquait l'armée allemande, les convois allemands, pas chemin de fer ou sur route. Il est arrivé au PC de donner des consignes que pour ma part je n'ai jamais appréciées et acceptées, à chacun son Bosch. D'abord parce que Bosch est un mot que je haïssais. C'était pas des boches qu'on avait devant nous. Ce qu'on combattait, c'est pour moi, c'était les Allemands, mais c'était les nazis. Le hasard a fait qu'il y avait avec moi, dès le début, deux Allemands. Ils étaient pas boches. Quand j'ai fait leur connaissance au début de la résistance, il y avait deux Allemands qui étaient des antifascistes qui avaient été en Espagne, Lys, de Hambourg. Alors à chacun son boche, non. On ne tirait pas sur n'importe qui. Ça n'empêche pas que quand on fait sauter un train, ou comme à Toulouse, il y a eu un tramway, je bourrais d'Allemands, il y a sûrement là-dedans des Allemands qui peut-être n'étaient pas des monstres. C'est la guerre. Quand on fait la guerre, c'est comme ça. Mais on poussait assez loin ce scrupule en ce qui nous concernait. Je me souviens qu'à un moment, on avait répandu un texte, des schémas sur la façon de placer le plastique quand on voulait faire sauter les rails ou
le mode d'emploi du poseur de bombes.
Le mode d'emploi. Où on expliquait pourquoi, parce que les trains qui étaient des trains allemands, de matériel allemand ou de personnel allemand, et qu'on les faisait sauter au passage du train, il y avait un cheminot français qui conduisait. Et on avait trouvé un système, et on expliquait ça, pour que le train ne déraille qu'après le passage de la locomotive. Pour que le cheminot qui était là, il n'ait plus de chance de s'en sortir. Donc,
les soucis étaient poussés loin, quoi.
C'était un souci légitime. Oui. D'autant que les cheminots étaient,
massivement résistants
comme nous, hein. Donc, ce mot terroriste, qu'on nous mettait sur le dos, et qu'on acceptait, bon, très bien, ça ne nous gênait pas du tout, impliquait plutôt cette espèce de statut de combattant illégal. Mais on était quand même des terroristes. Alors, les terroristes, on les prend, on les torture pour qu'ils avouent tout ce qu'on veut. Et puis, on les liquide ou on les envoie mourir au camp quand ils en tirent. Il y a des questions de chance étonnantes. Question de chance et de rapidité, parce que c'est arrivé d'être suivi, moi en vélo, eux en bagnole, par la Gestapo, avec un des types, on l'appelait Renard, qui était passé aux Allemands, et qui circulait dans Toulouse, en indiquant les gens qui étaient des résistants. Ça n'a pas été facile. Je peux dire que ça s'est joué à 2 minutes. Je ne sais pas trop. Je n'aime pas parler de ça, parce que il y en a tellement qui sont restés, qu'on a toujours une espèce de sentiment d'injustice, de presque de culpabilité d'en être sorti.
Ouais, pourquoi
moi, oui, pourquoi moi et pourquoi un tel. C'est comme ça.
1944, le 19 août, dans Toulouse résistante, capitale d'Occitanie, l'ombre sinistre de la croix gammée, symbole de crime, commença à s'éclipser devant la splendeur sacrée de la croix de Lorraine.
Il y a un passage dans l'Iliade où Achille, furieux contre Agamemnon, lui dit à peu près « Oui, toi tu es le plus roi de tous, tu es le roi des rois, Mais tu ne sais pas ce que c'est que de risquer sa psyché, sa vie, son souffle vital à tout moment, au premier rang. Et alors, il y a l'honneur, il y a les honneurs ordinaires qui sont dus aux gens en fonction de leur naissance. Et puis, il y a un honneur différent, une timée, une place, une façon d'être regardé par les autres, à part qui est quand tu as fait ça. C'est-à-dire les situations qui sont celles du tout ou rien, où il n'y a pas de demi-mesure, d'accommodement. Et le choix que tu fais en 40 de la résistance, il est de ce type. Tu ne le fais pas parce que ce n'est pas un choix. Mais tu sais qu'il n'y a pas de compromis. Tu y vas et tu sais qu'en y allant, tu te trouves sur un terrain où ça tombe. Et que c'est ça qui donne le sens à ton existence. Et tu le fais quand même parce que tu t'aperçois que dans ce qu'on appelle le vivre, avoir une femme, une fille, ce qui était mon cas à ce moment-là, des amis, le bonheur que le monde peut t'offrir, que cette vie en même temps ne peut être vraiment vécue que s'il y a en elle quelque chose qui la dépasse. Et quand ce quelque chose qui la dépasse, qui fait qu'elle prend un sens, est nié, à ce moment-là, le choix est fait pour toi. Tu sais qu'il faut y aller. Tout ou rien. Et ça, je crois que c'était quand même le sentiment qu'avaient tous les gens de la résistance.
Et moi, j'ai encore du mal à comprendre, Jean-Pierre Vernant, ce que vous racontez, c'est-à-dire le tout ou rien, la lutte au quotidien,
oui.
le risque au quotidien, et en même temps, ou en tout cas conjointement à ça, préparer l'avenir, penser à l'avenir,
non,
comment...
On ne prépare pas, là. Ça c'était le conseil de la résistance. Ça a été le travail de Moulin, la politique que de Gaulle a menée, de rassembler des représentants des anciens partis, des forces syndicales et des mouvements de résistance, et de mettre sur pied un programme. Dans ce programme, je crois, justement, ce qu'il y a d'intéressant dans ce programme...
Le programme du CNR, non ?
Dans le programme du CNR, c'est que c'était pas seulement l'indépendance nationale, c'était l'édification d'une France, d'une patrie qui était plus fraternelle, où la liberté... À ce moment-là, moi je pensais que dans toute l'Europe, l'attachement à sa patrie, et à l'indépendance de la patrie, le refus d'être occupé ou subordonné à un autre État, allait être liée à la volonté que cette patrie soit en même temps socialement plus juste, plus fraternelle. Et c'est ça, à mon avis, qu'incarnait le programme de la résistance. C'est toujours l'idée que, bon, la France avait été auparavant une république, on avait fait des pas en avant avec les lois sociales, les 40 heures, les congés payés, mais qu'il fallait continuer, qu'il fallait que cette France, il y a dans cette France... un État qui soit en même temps pas du tout une force oppressive, qui soit la représentation de ce que le peuple aurait décidé à travers la libre expression de ses choix. Et que cet État avait un devoir, non seulement de veiller à la défense nationale, à la police intérieure, mais de veiller aussi à une répartition équitable de ce qui a été produit par l'industrie et le commerce, qui est une espèce de rôle d'arbitre de cet État dans tous les conflits qui ne pouvaient pas cesser entre le patronat et les employés qui avaient des intérêts divergents, pour que s'il y avait progrès économique, que s'il y avait création de richesses, il y ait toujours la possibilité que l'État intervienne comme souverain répartiteur de ce qui est juste.
Aujourd'hui, 615e jour de la lutte du peuple français pour sa libération.
Née de la volonté ardente des Français de refuser la défaite, la résistance n'a pas d'autre raison d'être que la lutte quotidienne, sans cesse intensifiée. Cette mission de combat ne doit pas prendre fin à la libération. Ce n'est, en effet, qu'en regroupant toutes ses forces autour des aspirations quasi unanimes de la nation, que la France retrouvera son équilibre moral et social et redonnera au monde l'image de sa grandeur et la preuve de son unité.
Le problème, c'est que les conditions aujourd'hui, que les nations ne sont plus, n'ont plus cette capacité de direction complètement complète de leur économie, que le marché mondial fait que ça échappe à un contrôle et à un jugement, que d'autre part, les nécessités de la concurrence du marché font que, ou bien on délocalise les industries, ou bien on s'oppose à un relèvement des salaires, que les charges de la sécurité sociale sont plus grandes. Mais, tout ça est vrai. Mais un vieux type comme moi, il a tendance à dire tout de même ce qu'on est arrivé à faire au moment où la France était ruinée. Ruinée à la fois parce que pendant ces 4 années, elle avait nourri l'industrie allemande, l'armée allemande, l'effort de guerre allemand. Elle était ruinée par les bombardements qui avaient eu lieu. Et par conséquent, on partait de zéro. Et qu'on a quand même pu faire des lois sociales qui ont fonctionné. Une sécurité sociale, des retraites vieillesse. Alors, comment se fait-il que, au moment où on était si pauvre, d'une certaine façon, mais où on reconstruisait, on y soit arrivé, ou maintenant, tout de même, la richesse est beaucoup plus grande. Mais où, en même temps, il s'est créé quelque chose de différent, avec le chômage. C'était même précarisation, alors que dans l'ensemble, ça marche quand même à peu près. Alors, je suis obligé de m'interroger, de me demander quelle solution pour que l'État français, à l'intérieur de cette Europe, et peut-être en utilisant cette Europe, j'en sais rien, mais c'est ce qui devrait être.
C'est ce que voulaient en tout cas les
gens du programme de la Résistance et du reste. Bien sûr que oui. Mais c'est bien joli, cette Europe. Oui, on va plus massacrer. Comment ? Ce ne soit pas seulement la monnaie, le commerce, les règles frontalières, mais pas seulement non plus la création sur le plan intellectuel et scientifique d'une communauté. Mais le moins, c'est qu'en même temps, elle ne prend pas en main cette espèce d'effort qu'avaient voulu faire les gens de la Résistance avec leur programme, c'est-à-dire jouer un rôle de contrôle pour que ce ne soit pas les flux anonymes des intérêts boursiers, la hausse du pétrole ou sa baisse. Et le seul critère de la validité, est-ce que c'est rentable ?
La guerre économique, on appelle ça.
La guerre économique est le critère de rentabilité. Mais pour ma part, je reste convaincu que dans une société du 21e siècle, pour les chemins de fer, pour d'autres, la poste, il n'y a pas que la rentabilité. Bien entendu, la poste doit se débrouiller pour ne pas perdre d'argent, pour en perdre le moins possible. Et la notion de service public, c'est-à-dire l'idée que les gens, avec leurs impôts, avec leur travail, tout ce qu'ils ne peuvent pas régler, bon, oui, la communication, la poste, la médecine, le transport, que tout ça, c'est une responsabilité de la collectivité incarnée par l'État qui l'a en charge. Et que, par conséquent, dire « Oh, on supprime une gare parce que c'est pas rentable », non, la gare, elle est pas là pour être rentable, elle est là pour desservir un pays, et que les gens, jeunes et vieux qui sont là, doivent pouvoir utiliser le chemin de fer et pas le voir passer devant leur nez sous prétexte qu'ils ne rapportent pas assez d'argent. Voilà. C'est mon point de vue. Point de vue dont beaucoup diront qu'il est d'un vieux type utopiste. Bon, bien sûr. Mais que je considère quand même comme un élément fondamental de ce que l'avenir doit nous préparer.
C'est vrai, c'est trop court. Et pendant une heure, on a pensé à cette chanson. C'est drôle que on finisse sur ces propos, parce que ça nous renvoie à ce qui se passe à Saint-Agrève, en Ardèche, où un hôpital est menacé. Merci à Jean-Pierre Vernant. C'était une interview de Guy Van Til. Plus d'informations à votre disposition sur le site de là-bas si j'y suis, en allant sur franceinter.com. technique aujourd'hui, Patrick Henry et Gaëtan Colli, Yann Chouquet, c'est la musique, Pascal Pascariello, c'est l'assistante, le répondeur, c'est Christophe Humbert, et le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37, c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale. Le mail de là-bas, si j'y suis, c'est daniel.mermet@radiofrance.com. On se retrouve demain à 17h pour là-bas si j'y suis. Demain, on va aller à Paris. Très original, sauf que c'est Paris, l'Asie. L'Asie à Paris. Paris, terre d'Asie, à partir de demain dans là-bas si j'y suis. Voilà, à 17h donc, demain. Et dans un instant, après la réclame, vous avez pour 1 minute et 53 secondes de publicité, vous retrouverez Frédéric Bonneau et son charivari. Salut!